Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai astronaute. Astronaute.
Moi, quand je serai grande, je serai actrice.
Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac prononcé en juin 1991 et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école.
L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots, les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants.
Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire.
Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine. Car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain.
Quand je serai grande, je serai astronaute.
Salut Marie.
Salut Prisca.
Comment ça va aujourd'hui?
Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui?
Bah écoute, tout va bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la parentalité remise en question. Alors qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui sur ce thème?
Alors ce sujet, on peut l'aborder sur la question historique du rapport de l'école aux parents. Mmh. Sachant que la création de l'école, déjà, elle est basée sur un système qui était hiérarchisé. Donc la hiérarchisation des positions sociales. Donc le rapport à l'école en France fonctionne de manière déjà ségrégative. C'est-à-dire que l'école était réservée, à ce qu'ils appelaient l'école primaire était réservée à la classe ouvrière et l'enseignement secondaire était réservé à la bourgeoisie.
Exactement.
Pierre Bourdieu avait fait des travaux dessus et il montrait comment l'école, par son fonctionnement, permet de maintenir des privilèges. Donc déjà, quand on voit le rapport comme ça...
Entre les élites.
Donc là, on parle d'une élite et la classe ouvrière. Et du rapport après que ça peut créer entre l'immigration, enfin toutes les populations qui sont issues des anciennes colonies, qui sont arrivées en France et qui ont fait partie de ces classes ouvrières. Donc on est passé du rapport de force bourgeoisie-classe ouvrière à bourgeoisie-classe ouvrière et population racisée.
Alors, c'est vrai que historiquement, l'école a toujours été en fait un vecteur de classification. Ça peut être social ou alors sous le thème de classification aussi, bah, selon les personnes, selon les pays, selon si vous étiez un Français sur l'Hexagone ou un Français des colonies ou par exemple à La Réunion, le système scolaire n'était pas fait de la même façon que le système scolaire sur le territoire de l'Hexagone. Aux mêmes époques, on ne traitait déjà pas les enfants, les parents, les personnes qui allaient à l'école de la même façon que ça soit en France ou ailleurs.
D'accord.
À La Réunion, tu peux voir qu'il n'y avait pas une obligation de scolarité jusqu'en 1960. Ça veut dire qu'on a commencé à scolariser les enfants racisés massivement qu'après 1960.
D'accord.
Donc, il y avait une différence de traitement déjà sur l'Hexagone et sur les autres territoires.
D'accord.
Et du coup, l'école était vecteur de différenciation sociale et maintenait cette différenciation sociale.
Ouais.
Comme tu le disais tout à l'heure, avec le fait que les enfants d'ouvriers devaient s'arrêter en primaire et puis les autres pouvaient, en fait, les élites pouvaient continuer en école supérieure. Eh ben, c'était la même chose aussi avec des enfants racisés. Et sachant en plus que l'immigration en France est arrivée différemment en 1970, par exemple, avec l'arrivée des familles, donc à partir de là, l'école a aussi évolué quand ils ont reçu en fait les enfants de la première génération d'immigrés.
Oui, comme tu dis, déjà sur le territoire entre l'Hexagone et les territoires d'outre-mer, le fonctionnement n'était pas identique. Ben, le fonctionnement n'était pas non plus identique pour les enfants racisés avec les parents qui étaient issus de l'immigration, comme ils disent, première vague, et les enfants qui étaient nés sur le territoire français. Donc en gros, quand tu étais un enfant racisé, tu avais le poids de ta classe, et en plus, tu avais le poids d'être un enfant d'immigré. Donc du coup, le rapport n'était pas du tout le même avec avec l'école. Parce que les enfants racisés, faut savoir qu'au niveau de la scolarisation, ils avaient des classes qu'on appelait les ELCO.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, on les mettait à l'école. Mm-hmm. Ils avaient encore les cours de leur pays d'origine.
Oui.
Parce que pour l'État français, ces enfants-là n'étaient pas destinés à rester de manière définitive sur le sol français.
Tout à fait, oui.
Donc, c'était déjà pas la même approche au niveau de la scolarité et le rapport aux parents. C'était que pour l'école et pour l'État français, mm-hmm. tous ces parents-là et leur progéniture qui était sur le territoire français devaient repartir.
Mm-hmm. Et en plus, avec la première vague d'immigration et le regroupement familial, les parents, quand ils sont arrivés en fait sur le territoire français et quand ils ont dû scolariser ces enfants, il y a eu aussi le fait que certaines personnes ne parlaient pas français, ne maîtrisaient pas la langue. Et du coup, il y avait aussi déjà une espèce de scissure entre l'école, entre la vision que les enseignants avaient de ces parents. Parce que, comme on en avait parlé lors de l'épisode de la transmission de la langue,
oui.
le fait de ne pas pouvoir parler correctement le français quand on vient d'une immigration des anciens pays colonisés, n'est pas vu de la même façon que de pas très bien parler français quand on vient d'un pays européen.
Oui.
Donc à partir de là, ces parents-là ont déjà été stigmatisés rien que par le fait qu'ils ne maîtrisaient pas la langue française.
Et puis c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que l'immigration des anciennes colonies, il y a quand même un rapport de domination qui est resté malgré les indépendances du colonisateur sur les indigènes. Donc ce rapport de domination, il est resté ancré dans les institutions, avec tous les stéréotypes qui ont pu être véhiculés depuis la colonisation et de la propagande qu'il y a eu derrière, hein, avec le cinéma, les arts, les zoos humains, faut pas oublier. Donc en gros, on a tout cet imaginaire qui est encore vif, et toutes ces populations immigrées qui arrivent, avec tous les stéréotypes qu'il y a derrière, et ce rapport de domination, parce qu'on a toujours fait croire que tous les peuples colonisés étaient des bons petits sauvages qu'il fallait civiliser. Donc tout ce rapport de domination reste ancré, et le rapport qu'il y a entre ses parents, ses élèves et l'institution scolaire a encore un rapport de paternalisme et de mission civilisatrice.
Exactement.
Donc à partir de là, les parents et les enfants racisés, on leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas à leur place.
Tout à fait.
L'école a dû s'adapter, mais pas forcément en gommant tous les stéréotypes qui étaient ancrés. C'est-à-dire que l'école s'est adaptée, mais en continuant à véhiculer tous les stéréotypes qui se rattachent aux parents racisés. Tout le côté parents démissionnaires ou parents trop laxistes.
Oui.
Et tous ces stéréotypes, si on regarde bien, entre le discours de Jacques Chirac, où il dit que tous les immigrés font plein d'enfants et ils sont là pour les allocations familiales, je pense qu'il y a des parents aujourd'hui qui l'entendent encore. Et à travers toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand c'était l'histoire de supprimer les allocations familiales pour les enfants qui étaient trop absents, il y a encore toujours ce stéréotype derrière, on fait des enfants pour les allocations familiales.
Il y a derrière le fait de supprimer les allocations familiales, le fait de se dire on va punir financièrement le parent parce qu'en fait il fait des enfants, comme tu disais, juste pour avoir de l'argent sans en réalité prendre en main son rôle de parent, son rôle de pédagogue, son rôle d'éducateur au sein de la famille. Et c'est vrai qu'on a d'ailleurs, ce genre de stéréotypes qu'on entend régulièrement, encore une fois, avec les papas polygames.
Voilà, c'est ça.
Qui ont plusieurs enfants afin d'accumuler, en fait, les allocations familiales par enfant. Alors, c'est limite si ces papas vont devenir milliardaires, hein, parce on parle pas de petites sommes, en fait, on parle d'énormes sommes. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils te disent quand même que ces parents sont capables d'avoir 10 000 euros de prestations dues aux allocations familiales. Mais par contre, ils vivent dans des logements insalubres, dans des quartiers où tout le monde est entassé. Et je me dis, mais quel type de personne va aller vivre dans des logements insalubres
avec 10 000 euros,
avec avec 10 000 euros, quoi. Mmh. Donc, puis, c'est toujours, en fait, cette espèce de fantasme.
Voilà, de fantasme, c'est ça.
Sans aucune preuve, avec, en plus, basé sur rien du tout, mmh. Sur le fait, en fait, qu'il y aurait des énormes détournements d'argent mmh. faits par les personnes racisées mmh. afin de...
Bah, de s'enrichir. Oui. Mais en fait, c'est d'autant plus faux, parce que, moi, je sais pas toi, mais dans la famille autour de moi, ou même dans mmh. d'autres familles avec... d'autres amis que j'ai eus, on a tous eu la pression à l'école parce que nos mais parents nous ont toujours dit « tu fais des études parce que je veux que tu aies un bon boulot ». Donc, d'avoir cette idée en disant qu'ils font juste des enfants pour faire des enfants, que derrière, il n'y a aucun suivi, c'est déjà méconnaître l'exigence des familles
exactement,
racisées.
Exactement. Quand tu regardes sur le Cairn ou autre, il y a des études hein, de fait sur les relations entre les parents et l'école. Et on voit bien, en fait, dans ces études, qu'ils parlent du fait que les parents ont une haute attente de l'école et que les parents veulent que, leurs enfants réussissent, en fait. Oui. On a eu cette espèce de pression vis-à-vis de nos parents en disant, non, il faut être médecin, il faut être avocate, il faut être, je ne sais pas, c'était toujours les mêmes choses, quoi. En fait, vétérinaire, chirurgien, ingénieur. On avait ces métiers-là, c'était toujours les mêmes. Oui. Et on avait cette espèce de pression où il fallait réussir absolument au niveau scolaire
pour avoir les meilleures notes, fallait être le plus assidu, fallait être le plus sérieux, les devoirs à la maison, attention, t'avais intérêt que ce soit carré et tout. Donc dire que les parents racisés sont laxistes, qui s'intéressent pas et qui font que des enfants pour de l'argent, c'est vraiment pas comme tu dis, s'il y a des études et que c'est pas pris en compte, c'est vraiment rester bloqué sur ses idées et n'a pas avoir envie d'ouvrir les yeux. Et puis aussi de se dire que l'institution scolaire impose des critères pour déterminer qui est un bon parent et qui n'est pas un bon parent. Donc pour eux, être un bon parent, c'est les parents qui vont être présents à toutes les réunions d'école, qui vont faire toutes les sorties, tu vois. L'école impose un modèle du parent parfait.
Et attends, parce que faire toutes les sorties, est-ce que tu peux, en tant que parent, quand tu es une mère portant le foulard, alors être bon parent, c'est quoi aussi? C'est être catholique, il y a aussi cette idée-là derrière de se dire, même si tu t'investis en fait en tant que parent, si tu veux participer aux activités scolaires, si tu veux faire l'accompagnement, si tu veux intervenir dans la vie scolaire de ton enfant, parent d'élève et tout le reste, tu...
Il faut que tu correspondes à quelque chose.
Tu n'es accepté qu'à une condition. Mmh. Donc, à partir de là, c'est difficile d'avoir une relation de confiance avec l'école quand, en réalité, tout ce que tu représentes est souvent nié, dénigré, rabaissé. Tu es souvent infantilisé. Je pense que déjà, le couple parent-prof, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, qu'on soit racisé ou non. Oui. Mais en plus de ça, le fait de rajouter en fait des critères bien particuliers au fait d'être bon parent, des critères physiques, carrément. Là, on en revient en fait à des critères vestimentaires, physiques, croyances. Moi, je trouve que ça met quand même en plus une espèce de défiance entre quand t'es parent racisé et l'école, quoi.
Oui, mais parce qu'en plus... on va dire que si ton enfant se retrouve en difficulté, le critère ethnique va arriver, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, on supposait, il a du mal, c'est normal, il doit y avoir trop de bruit à la maison, il doit regarder la télé tout le temps, ils doivent peut-être vivre dans un logement trop petit, donc ils n'arrivent pas à s'occuper de lui, ou il y a peut-être trop de frères et sœurs.
Ce qui peut être le cas, mais si c'est le cas, c'est un problème de la société, mais qui n'est pas dû aux parents, en fait.
Voilà, c'est ça.
Ce n'est pas une faute des parents. Et le fait de te mettre en zone ZEP, te mettre dans certaines régions de la France, dans des banlieues et tout ça, c'est déjà un poids que tu n'as pas choisi, parce que personne n'a choisi d'aller vivre là-bas. Mais en plus de ça, on te le reproche, ce côté-là aussi, en disant « Bah ouais, mais vous êtes tant dans un appartement, mais personne n'a choisi de vivre à 5 dans un studio. »
Tu vois, au lieu de te dire que c'est un problème socio-économique, ils vont te sortir que c'est culturel. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je te dis ça. Ils vont dire non, mais c'est parce qu'ils aiment vivre tous entassés entre eux, là. Et il n'y aura jamais le côté, peut-être qu'il a un travail qui est précaire. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent.
C'est souvent, en fait, les personnes racisées qui ont des postes les moins bien payés, qui cumulent, en fait, plusieurs travails. C'est vrai qu'il y a aussi tout ça. Mais à partir de là, il n'y a pas forcément l'envie de comprendre.
Non. Et à la limite, quand le parent est en demande et qu'il veut de l'aide, la solution proposée n'est jamais adaptée. Je donne l'exemple, j'ai une maman à l'école qui est maman solo. et qui s'est rapproché de la maîtresse pour avoir de l'aide pour les devoirs, pour avoir un petit peu plus de suivi et tout. Tout de suite, ça a été, bah, si vous n'êtes pas capable de vous occuper, on va les placer, quoi.
Ouais. Cette histoire de placement dont tu parles, on a tendance à enlever, en fait, les enfants racisés de leur sphère familiale, parce qu'il y a aussi le fait de nier la capacité des femmes noires ou des femmes racisées. Alors, ça dépend aussi, hein, les femmes asiatiques, c'est encore tout autre chose, mais les femmes maghrébines ou les femmes noires, en fait, on leur enlève cette capacité d'être mère. Et ça, depuis toujours, ça a aussi un historique. Par exemple, je vais revenir encore sur mon histoire des enfants de la Creuse. On a quand même enlevé à des femmes réunionnaises leurs enfants pour les envoyer dans la Creuse, en France, pour les faire travailler. Leur a nié complètement leur parentalité.
Et ils ont enlevé l'enfance de ces enfants, puisqu'ils les ont fait travailler. C'était plus des enfants, c'était des travailleurs.
Exactement. Ça arrive quand même régulièrement dans l'histoire de la France de nier la parentalité, la capacité d'être de bons parents aux femmes racisées, aux femmes noires et aux femmes maghrébines. Et il y a ces stéréotypes de l'excision, du mariage de force, tu vois.
Donc, de l'autorité du père brutal, violent.
Exactement, qui forcerait ses filles à se voiler, qui serait, voilà, il y a toujours cette espèce de domination masculine, par exemple derrière la tête de beaucoup d'enseignants. Et en fait, des enfants qui sont maltraités, ça n'existe pas que chez des personnes racisées. Hein. La pédophilie, par exemple, bah, on en voit en fait dans des familles blanches, et pourtant. Je trouve qu'il y a moins d'inquisition en fait des familles blanches par rapport aux familles racisées. Il y a toujours ce doute de maltraitance qui plane. On est toujours coupable en fait en tant que parents racisés.
Tu vois, et cette maman-là, au final maintenant, elle essaie de se débrouiller par elle-même toute seule. Elle dit parce que je n'ai pas envie qu'on m'enlève mes enfants. C'est même pas essayer de comprendre ce qui n'allait pas. C'était tout de suite, si vous y arrivez pas, on vous les enlève. Donc elle dit je fais comme je peux, c'est un peu radical et malheureusement je pense que cette relation aussi de confiance avec l'institution scolaire à cause de ça, c'est qu'ils estiment que les parents racisés viennent pas aux réunions, ne s'intéressent pas, mais c'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de se sentir rabaissés ou renvoyés à un rôle de mauvais parent. Quel parent a envie de se sentir encore infantilisé?
Oui, il y a une méfiance.
Bah oui, une méfiance.
Et tu vois, tout à l'heure, quand je te disais par rapport au risque et tout ça, au fait de se dire les enfants risquent d'être excisés, ça amène aussi une espèce de violence, parce que moi, je sais pas toi, mais moi, je me rappellerai toujours de la fois où j'ai emmené ma petite fille qui avait 3 ans chez le pédiatre, et que réellement, ils ont dû regarder, en fait, son intimité. Et moi, je trouve que c'est quand même super agressif, intrusif, d'aller déshabiller des enfants comme ça, qui sont pas préparés, de leur demander, en fait, sans consentement, de montrer leur intimité. Moi, je trouve que c'est réellement une intrusion qui est juste incroyable, en fait. On en avait parlé toutes les deux, et tu m'as dit que toi aussi, on t'avait demandé pour ta fille de faire la même chose. Et moi, j'en ai parlé avec une autre copine, et elle est blanche, et on lui a jamais demandé ça. Et elle a été choquée, en fait, et j'en ai parlé dernièrement. Elle est venue à la maison et je lui ai parlé de ça et elle m'a dit « Quoi ? De quoi ? Mais attends, comment ça ?»
Moi, j'ai eu droit. Et elle m'a dit « Non, c'est pour vérifier
que tout va bien.
Que tout va bien, qu'il n'y a pas de... » Elle ne m'a pas dit de mutilation, mais c'est sous-entendre ça. Quoi. Et tu sais, je suis restée bête. j'ai même pas répondu parce que je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai dit « Ok. »
Mais moi, ma fille, elle ne voulait pas. Elle s'est mise à pleurer, en fait. Tu vois, parce qu'elle a trouvé ça quand même, et moi j'ai dû à un moment me fâcher en fait et dire que non, que je ne voulais pas. Mais elle l'a fait quand même sur la plus petite et qui s'est tordue dans tout sens. Et la grande, elle voulait pas, elle m'a dit non. Ouais, il faudrait faire un sondage en fait. Si vous êtes des mamans blanches et que vous avez des enfants entre 3 et 9 ans, dites-nous si
on leur a demandé
filles, entre 3 et 9 ans, si en fait vous avez dû montrer aussi bien à la médecine scolaire ou chez votre pédiatre le sexe en fait, l'intimité de votre fille. Tiens, voilà, ça serait bien que vous puissiez nous dire ça.
Qu'on sache. Ouais. Mais moi, c'est normal.
Voilà, en tout cas, la personne avec qui j'ai discuté dernièrement, il y a quelques jours, m'a dit bah quoi, de quoi, non, moi j'ai pas eu ça quoi. Donc, je me pose quand même la question de savoir, en fait, est-ce que ce genre de contrôle arrive chez toutes les petites filles en France quand elles ont entre 3... Toi, c'est arrivé à quel âge?
Tu vois, moi, elle n'avait même pas 3 ans. Elle avait 1 an et demi.
Voilà. Donc un an et demi, puis 9 ans.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, et je trouve ça quand même assez agressif. Donc c'est aussi ce côté, je te dis, en fait, le fait de se dire, bah ouais, en tant que parent, il y a toujours une suspicion.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux dire, c'est que quand tu as un parent racisé, de toute façon, t'as toujours tort. Soit t'es trop laxiste,
ouais.
Soit t'es trop autoritaire, soit t'es trop envahissant, soit t'es absent.
Et moi, je pense que les enfants ne nous disent pas tout. Ils doivent pas tout nous dire parce que, tu vois, moi, une fois, j'ai mis un mot dans le cahier de ma fille parce que elle se faisait taper par son voisin. Mmh. Elle m'a dit, oui, la maîtresse, elle a rigolé quand elle a vu ton mot, quoi. Et elle a dit, et elle a dit à sa collègue, viens lire le mot, tu vas rire.
Ah oui, c'est vrai, elle a dit ça devant ta fille, viens lire le mot, tu vas rire. Et elle a appelé sa collègue.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est une forme de décrédibilisation aussi des parents, quoi, devant les enfants, de faire ce genre de choses.
Donc je me dis, t'imagines le sentiment que ma fille a dû avoir en disant, mais elle est en train de se moquer de ma mère, là. Mm. Quelle autorité nous on a après quand tu dis que le système éducatif peut se moquer de toi comme ça, de manière aussi tranquille, devant ton enfant.
Non, mais c'est sûr. Mais moi, pour moi, c'est même pas une question d'autorité. En fait, ça fait du mal à l'enfant. C'est pas l'autorité qui m'interpelle là-dedans. C'est la façon de vouloir dire à l'enfant, peu importe ce que tes parents peuvent dire ou penser, on s'en moque. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avec l'histoire des mamans qui portent le voile, j'ai regardé dernièrement sur YouTube une vidéo d'une maman face à Najat Belkacem. Elle était la porte-parole d'autres mamans qui avaient été renvoyées
carrément
d'une activité scolaire. Ils étaient en train de faire des pâtisseries à l'école.
Ouais.
Donc elles sont rentrées, elles allaient bien, elles faisaient des pâtisseries avec les enfants. Et puis tout à coup, la directrice de l'école qui est arrivée et leur a dit qu'elle n'avait pas apporté en fait le foulard.
D'accord.
Qu'il fallait qu'elles enlèvent le foulard. Et la maman a refusé d'enlever le foulard. Et puis dans ces cas-là, elle est revenue avec une personne du rectorat apparemment.
Mm-hmm.
Et elle leur a dit, écoutez, soit vous enlevez le foulard et vous restez. Soit vous gardez ce foulard, mais dans ces cas-là, on arrête l'activité. Mm-hmm. Donc tous les enfants arrêtent l'activité.
Alors pression, pression chantage
soit,
en plus.
Non, mais voilà, exactement. Soit de force, ils vont les renvoyer, quoi.
D'accord.
Et du coup, la maman, elle a pas voulu enlever son foulard.
Mm-hmm.
Donc elle est sortie, elle est partie de l'activité. Et du coup, son enfant s'est mis à pleurer. Et voilà, c'est de mettre des parents dans des situations comme ça.
Mm.
L'enfant pleure, il comprend pas. Ses parents sont stigmatisés, ils le voient. Ce que représentent ses parents, les croyances de ses parents, les valeurs de ses parents sont ridiculisés, les parents sont humiliés devant leurs enfants, et l'enfant, il est dans une situation, mais vraiment compliquée, délicate. Y a rien qui te brise plus le cœur que de voir tes parents vivre une injustice, quoi.
Oui.
T'as l'impression que c'est tes super-héros, que rien peut leur arriver.
Ils sont infaillibles.
Exactement.
Et que tu peux compter sur eux, quoi qu'il advienne.
Et ton monde s'écroule un peu.
Voilà, c'est ça.
Quand tu vois qu'en tant que parents, eux aussi vivent des injustices, et on les traite de cette façon. Et tu comprends pas non plus. Donc ça crée déjà une scission entre l'école et toi, et en même temps, ça crée une scission dans la façon dont tu
perçois tes parents. Et puis donc, c'est surtout aussi, est-ce que tu dis, enfin, peut-être que j'extrapole, mais en tant qu'enfant, tu dis que tes parents sont comme tu dis, des super-héros qui sont toujours là pour te défendre, et que tu vois que d'autres adultes les ridiculisent, tu dis, mais est-ce que je peux compter sur eux pour m'aider? Est-ce que ce sera les bonnes personnes? Est-ce qu'on les écoutera? Est-ce que... Donc tout ça, c'est à prendre en compte, c'est que un enfant qui voit ses parents se faire ridiculiser, il se dit peut-être qu'il sera pas apte à me défendre. Donc c'est assez difficile, hein, je pense, pour eux.
Pour moi, hein, je pense que c'est aussi un des facteurs qui peut faire aller vers le décrochage scolaire, le fait de plus avoir confiance aux adultes, à l'école, à la structure de l'école et à tout ce qui s'y passe, en fait.
Mmh.
Donc,
et puis à ses
moi,
parents
à partir
aussi,
du moment
du
où tu vois... Oui.
Oui, parce que tu fais plus confiance à tes parents. Parce que tu dis, comment vous pouvez me défendre si déjà vous n'arrivez pas à vous défendre? Donc, ça joue aussi, hein.
Moi, j'étais la seule noire de mon école. Et ma mère, elle venait très, très peu à l'école. Alors, par contre, à la maison, elle était vraiment très impliquée. Les devoirs, c'est elle qui me les faisait tous les jours. Elle les faisait avec moi, elle m'aidait, elle vérifiait. Elle regardait toujours le cahier, s'il y avait un mot. Elle écrivait aussi dans le cahier, s'il y avait des informations à donner ou autre. mais elle n'aimait pas du tout à aller à l'école parce que déjà les autres parents d'élèves avaient aussi un regard sur elle
qu'elle aimait pas.
Et elle allait par contre à toutes les réunions de classe toujours. Elle parlait pas à d'autres parents quand elle venait me chercher. Et les autres parents d'ailleurs restaient bien entre eux. Par contre, pour l'école de mon petit frère, lui, il était dans une école où il y avait beaucoup plus de mixité. Donc mon frère, il avait des copains maghrébins, des copains asiatiques, des copains blancs. Il y avait vraiment plus de mixité. Là, par contre, tu vois, à chaque fois, il y avait vraiment une énorme différence parce que ma mère, elle restait à parler. Elle venait toujours un peu plus tôt. Bon, elle parlait avec les mamans, les autres parents d'élèves. Ouais. Et tu voyais aussi la différence quand l'enseignante était racisée ou non. Des enseignants qui vont être blancs, bah, déjà, il y avait un froid, mais réellement entre les deux, quoi, tu vois. Il y avait aussi une espèce de méfiance, on va dire. Parce qu'il y avait des stéréotypes, il y avait des jugements, ne serait-ce que la façon dont certains enseignants se comportaient face à une population en fait mixte. Ces stéréotypes, ces préjugés qui pesaient sur elle aussi, du fait de se dire bon bah elle était une personne noire et les enseignants se comportaient. Il y avait aussi enfin, tu le voyais en fait, les enseignants, ne serait-ce que physiquement, dans leur manière d'être, la façon de parler, la façon de tutoyer parfois ma mère.
Oui, carrément.
Non, mais carrément, ouais. Ouais, je te dis, j'avais un enseignant comme ça, tu sais, du genre un peu le cercle des poètes disparus. Ouais. Je vais pas citer son nom, on sait jamais. Ouais. Mais je l'appelais comme ça à chaque fois. Et il avait tendance à tutoyer ma mère, à faire croire que, tu vois, et en fait, il tutoyait pas les autres parents, il y avait que ma mère qui tutoyait, tu vois.
C'est genre à sortir la vieille excuse. Non, mais chez les Noirs, il n'y a pas de problème, tu peux tutoyer.
Bah surtout qu'à Madagascar, tu tutoies pas les gens comme ça. Tu t'adresses aux personnes selon leur âge, selon...
C'est pas ton pote, hein.
Exactement. Les amis de tes parents, tu t'adresses pas de la même façon à eux. Tu tutoies pas facilement comme ça. Moi, je tutoyais pas les copines de ma mère, par exemple. Selon l'âge de la personne, selon la distance qu'il y a entre vous, en fait, c'est très important de vous voir ou d'appeler les personnes différemment. Et l'autre, il tutoyait ma mère comme ça. Ma mère, elle était...
Elle était outrée.
Ah ouais, non, mais elle le regardait, tu sais, elle savait pas trop où elle était tombée, là, en fait, voilà.
C'est clair.
Et ça montre aussi que ce sont des stéréotypes et des préjugés, parce que tu vois, dans la Revue internationale de l'éducation familiale de 2009, tu as Abdel Jalil Akari et Nima Shankakoti, qui ont écrit, donc, dans la Revue internationale de l'éducation, et ils disent dans l'étude... qu'en France, en particulier, il y a un malentendu, en fait. Et le malentendu est le produit de l'idéal universalisant de l'école républicaine, qui s'adresse à tous en prétendant ignorer le statut social et plus généralement la diversité des élèves au nom du principe d'égalité.
C'est le colorblind version.
Voilà, c'est ça, exactement, le colorblind
version.
Alors, il dit, or, comme le souligne à juste titre Brunet en 1996, l'école ne peut jamais être considérée comme culturellement neutre. Donc, parce qu'il y a une histoire, il y a l'école...
Déjà, l'histoire où c'était le primaire pour les ouvriers et le secondaire pour la bourgeoisie. Donc, voilà.
Donc, à partir de là, l'école aussi prône, oui, des valeurs, prône... Je vais pas dire une propagande parce que j'exagérerais un petit peu. Enfin, à partir du moment où on considère que l'école est le microcosme de la société, il y a des choses qui se jouent à l'école, quoi.
Oui.
Les relations entre adultes, la façon dont certains enseignants voient les parents... C'est aussi la même chose que ce que tu vois en extérieur. Hein. Le racisme que tu peux trouver à l'extérieur, tu le retrouves aussi à l'école.
Et puis, il y a certaines mesures qui sont prises, qui sont utilisées à l'école, qui relèvent du ministère autre que du ministère de l'Éducation. Tu vois, par exemple, en 2009, ils ont fait ce qu'ils appelaient « ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration ». C'était un partenariat entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Immigration, l'Intégration et de l'Identité Nationale. Donc, tu as un truc où on parle d'éducation, d'immigration, d'intégration et d'identité nationale. Oui. Donc, en gros, ils sont partis du principe au ministère de l'Éducation que les enfants qui étaient en difficulté scolaire, c'était dû aux parents. Et donc, c'est même pas que dans une approche d'éducation nationale, c'est que tu vois que tout de suite, il y a le côté intégration et identité nationale qui est venu se greffer à ça. Donc, ce dispositif, c'était pour dire aux parents, bah si vos enfants ils y arrivent pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez intégrés. Mais tu parles d'intégration de gens qui sont français. Ça te montre déjà l'estime que tu as pour eux.
C'était en quelle année, ça, déjà?
En 2009.
Wow.
Ils estiment que les parents racisés ne connaissent pas les valeurs de la société française. Et ce que je suis en train de te dire, c'est parce que je l'ai lu. Je l'ai vu dans un dossier sur le site de la Canopée, où c'était mis carrément mot pour mot, ses parents ont une méconnaissance des valeurs et des habitudes de la société française. Alors avant, ils allaient dire l'immigration. Maintenant, je suis désolée, toutes les générations qui sont nées en France sont françaises. Donc on ne peut même plus parler d'immigration. Donc tu as toujours ce côté où tu dois justifier de ton intégration pour qu'on te considère comme un parent apte à élever ton enfant. Tu te rends compte? Voilà. Donc, en plus d'avoir une domination du corps enseignant sur les parents racisés, dans le comportement, dans les rapports, t'as aussi une domination par la culpabilité. Parce que quand tu mets en place ce genre de dispositif, l'échec de ton enfant s'est renvoyé aux parents en pleine tête, quoi. Genre, c'est de ta faute, hein. Si ton enfant n'y arrive pas, c'est pas nous, l'école. Nous, on fait tout ce qu'il faut, hein. C'est toi qui n'es pas apte à savoir t'occuper de ton gamin. Bah, en fait, du coup, le système ne se remet pas en cause.
Et c'est connu même en dehors de la France, hein, en Angleterre, en Belgique, au Canada. Cette accusation des parents. D'ailleurs, dans cette revue, toujours, ils disent « Les parents d'élèves migrants et ceux de classe populaire sont accusés d'être démissionnaires, inadéquates, absents. Il est vrai que les parents d'élèves migrants sont généralement peu présents à l'école. Au sein des associations de parents d'élèves, leur voix est rarement entendue. Mais comment se faire entendre face à l'attitude paradoxale de l'école qui leur demande de collaborer tout en leur déniant la compétence pour le faire ?
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà. Ce malentendu historique se retrouve de façon moins polarisée peut-être, avec des nuances dues aux contextes différents en Suisse, en Belgique, au Canada et dans bien d'autres pays. Alors, à partir de l'analyse de 64 études récentes, Boetel, en 2003, a montré que les familles appartenant à des minorités raciales, ethniques et culturelles sont par ailleurs activement impliquées dans la scolarisation de leurs enfants. Donc, en réalité, ce sont bien des idées reçues, tu vois. C'est un a priori. Mais quand on fait des études, on montre bah, les parents racisés sont activement impliqués dans la scolarisation de leurs enfants. Mais par contre, ça n'empêchait que à l'école, il y avait des enseignants qui prétendaient que ma mère n'était pas impliquée, alors que je peux t'assurer que j'avais pas intérêt à ramener une mauvaise note. Et puis du genre, les week-ends, il y avait devoirs supplémentaires.
Voilà, quoi, tu sais, c'est ce que j'allais dire. Tout le monde avait droit à la petite dictée.
T'avais une
en
pression
plus,
de dingue.
Au devoir non, mais de maths en plus pour être sûr que t'avais bien compris.
Mais c'est ça.
Tout était du plus-plus. Hein. Il n'y avait jamais genre
exactement.
Tu fais que tes devoirs puis tu t'arrêtes. Hein. Mais en fait, ils disqualifient les parents parce que en invoquant les parents racisés, infériorité intellectuelle, infériorité culturelle, infériorité au niveau de la morale, parce que bien sûr les parents racistes, morale c'est que tu passes ton temps devant la télé, tu manges des cochonneries et tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, en fait pour moi tout est c'est pas que c'est ils veulent pas se rendre compte, pour moi je pense que c'est conscient pour certains et je pense que pour certains c'est inconscient, c'est dans le fonctionnement même de la manière dont ils voient la société, en disant mais
oui tout à fait,
mais en gros ils ont des mauvais boulots parce qu'ils sont pas intelligents. Ils ont des mauvais boulots parce qu'ils s'intéressent pas à la culture. Ils sont dans des logements, excusez-moi, je vais dire des gros mots de M, parce que ben, ils ont pas le salaire qu'il faut et qu'il faut rien pour s'en sortir. En gros, tout le processus de disqualification, c'est pour dire mais le problème c'est vous quoi.
Exactement.
Donc voilà.
Mais d'ailleurs, on a eu le témoignage en message privé de certaines enseignantes blanches et des enseignantes aussi racisées qui nous ont dit qu'elles avaient clairement assisté à des comportements discriminatoires et racistes de leurs collègues à propos justement des parents de certains enfants. Donc avec bien sûr dans les salles de réunion des blagues racistes. Donc en même temps, enfin d'ailleurs, on invitera une enseignante racisée afin qu'elle puisse aussi témoigner. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des enseignants qui nous parlent de ça, qui nous racontent aussi comment leurs collègues se comportent vis-à-vis des enfants et des parents.
Mais on a tellement eu l'habitude de ce côté « fais pas de vagues » que même en étant parent, on continue à ne pas faire de vagues.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc faut qu'on apprenne.
Et en fait, ça sert à rien de pas faire de vagues.
Hein. Oui.
Parce que de toute façon, quand on a décidé de te nier et de te coller des étiquettes, que tu fasses de vagues ou pas, les étiquettes sont là. Donc, quitte à avoir ces étiquettes, à être victime de ces stéréotypes, Justement, il faut se défendre et...
Faisons des vagues.
Ouais, faisons des vagues.
C'est voilà, je dis ça de rigolant, mais je suis sérieuse, il faut faire des vagues. Parce que je ne vais pas faire de vagues. Au final, on ne t'entend pas.
Ouais, voilà.
Faisons des vagues. Ça va être le mot d'ordre.
Le dernier mot d'Ulrich, faisons des vagues.
Des vagues, oui.
En tout cas, on vous mettra des liens, des lectures qu'on a eues, oui. Des recherches, des articles.
Il y a Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre Bourdieu qui est très intéressant aussi à lire.
Oui.
Et il y a la thèse de la professeure des écoles qui a fait son master en sociologie de Isabelle Laureau aussi qui est très intéressant qu'on vous mettra en lien. Donc voilà.
On va vous laisser. On vous dit à très bientôt. Et puis, si vous avez aimé le podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. 5 petites étoiles sur iTunes, Apple Podcast. Et n'hésitez pas à nous écrire. C'est vraiment important pour, si vous désirez nous supporter, de mettre ces 5 étoiles, de noter sur Apple Podcast.
Et puis, n'hésitez pas à partager vos témoignages, comme on en reçoit régulièrement.
Sur Instagram, ou alors par mail, enfants du bruit et de l'odeur, @gmail.com. On se dit à bientôt.
À bientôt, Whiska.
Salut, Ulrich.
Salut.
Au revoir, les amis.
Au revoir, les amis.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.